Bon, OK. Fait qu'on va commencer par la prière. On va demander au Seigneur de bénir cette prédication-là, qui est thématique, mais qui est très riche et très profonde. Donc, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à ta Sainte Présence. Nous t'adorons. Nous entreprenons l'étude d'un sujet profond, riche. Nous avons besoin que ton Saint-Esprit nous éclaire, nous guide, nous instruise, nous ouvre l'intelligence à la compréhension de ce qu'on va lire, et qu'on comprenne vraiment, parce que c'est vraiment une doctrine qui nous amène à l'adoration. Alors Seigneur, bénis-nous, conduis-nous, ouvre nos esprits, permets qu'on comprenne ce qu'on va étudier aujourd'hui, qu'on le retienne aussi, parce que ce sont des choses extrêmement encourageantes en ces temps difficiles. Nous croyons que nous sommes dans les temps de la fin, et Seigneur, on a besoin d'être encouragé, et ce chapitre est très riche et veut nous démontrer qu'on peut trouver consolation dans tes Écritures, dans les saintes doctrines qui sont enseignées, et plus particulièrement sur celui que nous allons étudier aujourd'hui. Nous te demandons ta bénédiction en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Donc, le titre que j'ai donné aujourd'hui au sermon, c'est « Cinq œuvres ultimes de la Providence qui vont résulter de la seconde venue de Jésus ». Autrement dit, si on prend la Providence, c'est l'ensemble de toutes les choses qui se sont déroulées dans l'univers, sur la terre, dans les vies des nations, dans les vies des individus, y compris les fleurs, y compris les plantes, les animaux. C'est extrêmement grand, extrêmement large. Mais ultime, c'est que tout ça, ça s'est développé au cours de l'histoire. Mais il va arriver un temps où on va s'approcher du moment où Jésus va revenir. Et là, ça va être justement les cinq œuvres ultimes. Donc, ça se développe, la Providence. Mais quand le Seigneur revient, il y a cinq œuvres qui vont s'accomplir, qui sont extrêmement intéressantes à se rappeler et à pour nous encourager. Je vais vous les nommer les cinq. Après ça, on va regarder un petit peu le contexte de tout cela et on va expliquer les cinq points assez brièvement. Je me donne 50 minutes, disons. Je vais être généreux avec moi-même. Alors, les cinq points sont les points suivants. Le premier, c'est que nous verrons le Seigneur dans toute sa gloire. Lorsqu'il va revenir, on va voir le Seigneur dans toute sa gloire. Le deuxième point, c'est que nous serons totalement transformés. Le troisième point, c'est que nous connaîtrons un bonheur sans fin, qui ne cessera d'augmenter. J'avoue que quand j'ai lu ce passage-là, il dit « Nous connaîtrons un bonheur sans cesse, sans fin. » On pense quand on va arriver au ciel qu'il n'y aura pas de croissance dans notre vision, dans notre bonheur, il va en avoir une. Et ça, c'est encourageant de savoir ça, parce qu'autrement dit, quand le Seigneur va revenir et qu'il va s'établir et que nous, on va rentrer dans le règne du Seigneur, on va avoir une jouissance de l'âme qui va aller sans cesse croissante. C'est une idée qui tu te dis quand je vais être au ciel, je vais être content, mais tu vas avoir des contentements qui vont sans cesse grandir. Et ça, c'est une idée qui est vraiment fascinante. La quatrième, c'est que l'univers sera affranchi de sa servitude. On sait qu'actuellement, les hommes polluent tout, mais quand le Seigneur va revenir, il dit qu'il va rétablir la création encore mieux qu'elle était avant la chute. Ça aussi, c'est extraordinaire. Et la cinquième, c'est que Dieu sera au centre et au-dessus de tous. Maintenant, si on veut comprendre c'est quoi les cinq œuvres ultimes de la Providence qui vont arriver lorsque le Seigneur a sa seconde venue, on se doit de comprendre, parce que je dis les cinq œuvres ultimes de la Providence, c'est pas évident que tout le monde a le même niveau de compréhension de ce que c'est la Providence. Alors, je pense qu'une des bonnes façons de nous mettre tous à la même longueur d'onde, c'est de regarder ce qu'une confession de foi dit. Pourquoi? Parce qu'une confession de foi, ça a été faite par une réunion de pasteurs qui ont pris un sujet, ils ont vidé la Bible de ce que le sujet dit, et qu'ils l'ont écrit, et qui se sont critiqués entre eux autres, alors une confession de foi, c'est précieux. Moi, en tout cas, la 1689, je la trouve extraordinaire et je l'aime de plus en plus et je m'en séparerai pas pour tout le long du monde. Mais lui, l'auteur, John Piper, il a pas pris la 1689, il a pris la confession de foi de Westminster de 1646. Mais la confession de foi de Westminster de 1646 et celle de la 1689, ça a beaucoup de points en commun. Sur le salut, on s'entend, sur plein de choses, il y a des petits points, mais on ne rentre pas là-dedans ce matin. Lui, il a décidé de choisir la définition de ce que c'est la Providence en se basant sur cette confession de foi-là. Je vous la lis, c'est dans le chapitre 5, ça s'appelle, le titre, comme des raisons, la Providence. Je vais la lire lentement, parce que faut la lire lentement pour vraiment apprécier ce que le texte dit. Dieu, le grand créateur de toute réalité, soutient, dirige, emploie et gouverne toutes les créatures, actions et choses, des plus grandes ou plus petites, par sa très sage et sainte providence, selon sa préscience infaillible et le libre et immuable conseil de sa volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de sa bonté, de sa miséricorde glorieuse. Je vous dis, vous pouvez prendre la 1689, il n'y a aucun problème dessus, c'est à peu près la même définition. Mais prenez le temps d'aller lire dans votre confession de foi le passage sur la Providence, puis méditez. Parce qu'on peut lire, on comprend plus ou moins. Mais si vous arrêter à essayer de réfléchir qu'est-ce que ce texte-là est en train de me dire, qu'est-ce que ce texte-là est en train de m'enseigner. C'est profond, là. Je vous l'ai lu une fois, là. Je vous demande, je ne poserai pas de questions pour vous dire, répétez-le-moi. Mais il reste que c'est extrêmement riche, extrêmement profond. La doctrine de la Providence est une doctrine très riche, c'est comme l'élection, c'est comme la doctrine du décret. C'est comme la doctrine de la souveraineté de Dieu. Tout ça, c'est tout interconnecté. Alors, voici ce qu'il dit, lui, après qu'il a lu le premier paragraphe, le paragraphe 1 de la Providence, il dit « On trouve ici la définition la plus complète abordée jusqu'à présent. Dieu soutient, dirige, dispose et gouverne toute créature, toute action et toute chose. » Voilà ce qu'est la souveraineté omniprésente. Puis sont ajoutés les éléments providentiels, souveraineté gouvernée par la sagesse et la sainteté, et tout à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de sa bonté, de sa miséricorde glorieuse. Juste là, on pourrait en parler des heures et des heures et des jours, et même des jours, je pense. Si on ira dans les détails de cela. Il dit, cette façon d'exprimer le but de Dieu dans la Providence se révélera essentielle dans nos efforts pour demeurer fidèles aux Écritures. Certaines perceptions de la Providence mettent tellement l'accent sur l'objectif qu'aurait Dieu de manifester sa miséricorde que le reste de sa gloire reste obscurci. Je pense que la résistance à cette réduction dont Westminster fait preuve, est sage et biblique. Cette confession affirme que le but de la providence de Dieu est à la louange de la gloire de Dieu, non pas un seul aspect ou une seule facette de celle-ci, telle que l'amour ou la grâce ou la miséricorde, mais la totalité. La gloire de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de sa bonté et de sa miséricorde. Alors, je vous l'ai dit tantôt, mais je le répète, si jamais vous achetez le livre, vous pouvez commencer par le dessert. Parce que moi, je trouve que le chapitre 45, c'est comme un dessert. Mais vous pouvez commencer par le dessert, il n'y a aucun problème. Mais si vous lisez ce chapitre-là, puis ça vous laisse complètement indifférent, il faudra qu'on se parle. Sérieusement, c'est tellement riche et profond. Moi, j'étais étourdi. Quand je vous le dis, c'est pas... une expression, là, j'étais vraiment, puis là, il tape dans le mille, comme on dit. Alors, c'est le chapitre 45, 17 pages, pas long. Achetez-vous le livre, prenez. Commencez par la fin. Alors, il veut, lui, dans le chapitre 45, illustrer comment la providence est déroulée dans toute l'histoire. C'est ce qu'il a fait dans les 44 premiers chapitres. Et quand il arrive au chapitre 45, il dit, voici quelles œuvres de la providence que Dieu va faire lorsqu'il va arriver dans sa deuxième venue. Là, c'est les cinq points que je vous ai nommés. Car on dit, le premier point, nous verrons le Seigneur dans toute sa gloire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai été plusieurs années chrétien, puis quand on disait la gloire de Dieu, je me disais tout le temps, veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il veut dire par là? La gloire de Dieu, on va parler de la gloire des hommes. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de quoi? La gloire de Dieu, à ma compréhension, c'est la manifestation de tous les attributs de Dieu de façon simultanée. C'est pour ça que Dieu dit qu'on ne serait pas capable de survivre à le voir. Voir, ça impliquerait qu'on voit toutes ses qualités, ses attributs de façon simultanée et qu'on les verrait en profondeur. L'homme n'est pas capable de ça. Pas pour rien qu'elle dit l'homme. Quand Moïse a demandé « Fais-me voir ta face », c'est ce qu'il a dit. « Tourne-toi, je vais te mettre dans le creux du rocher, puis tu vas me voir de dos. Tu peux pas voir ma face. » Alors, la gloire de Dieu, c'est la manifestation simultanée de l'ensemble des attributs de Dieu. Et comme ils sont infinis, il y a de quoi s'étourdir, vraiment. Le Seigneur nous avait dit qu'un jour, le monde aurait une fin. Dans Matthieu 24, le verset 14 et les versets 30 et 31. Verset 14, il dit, « Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Puis dans le verset 30 et 31, il dit, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. » Alors, toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Quelle chose merveilleuse, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? La fin du monde actuel n'est qu'un glorieux commencement. Le nôtre, quand le Seigneur revient, toutes ces choses-là vont s'accomplir. Et il y a des points tellement intéressants. Le glorieux commencement de notre bienheureuse espérance. On sait que les Écritures, dans Tite, au chapitre 2, verset 13, nous dit, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » De qui il parle, là? Il parle-tu de Dieu ou il parle de Jésus-Christ? Il parle de Jésus-Christ. Ça dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation. Le mot manifester, ça veut dire rendre visible, rendre palpable, rendre observable facilement. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire. De qui? De notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. C'est extraordinaire. 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Aimez-vous l'avènement du Seigneur? Il va vous le donner à vous aussi. Il a dit qu'il le donnera à tous ceux qui auraient aimé son avènement. Dans ces deux épîtres-là, Tite et Timothée, l'accent est mis sur la grande valeur de cet événement-là, soit l'arrivée et le début du règne éternel de Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car vous avez cru à notre témoignage. Ce qu'il vise, c'est que nous le voyons et que nous l'admirions. Là, on aime le Seigneur. Je demande à n'importe qui ici, tu aimes tout le Seigneur Jésus? Ah oui, mais on aime tout le Seigneur Jésus. Mais si je te dirais, l'as-tu déjà vu? Non. Dans un film, oui, mais dans la vie, il n'y a jamais vu. Là, on va le voir. On va le voir dans sa gloire. On ne le verra pas comme les apôtres l'ont vu. Ils voyaient un homme devant eux, même qu'ils croyaient que c'était uniquement un homme. Mais éventuellement, Pierre a eu un éclair de génie. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, il veut qu'on le voit, et ça va être la plus grande joie qu'un être humain peut connaître pour un être créé. C'est le privilège d'admirer et de refléter la perfection divine. Donc, le glorieux commencement de notre espérance, de notre bienheureuse espérance, mais c'est aussi le glorieux commencement de la contemplation de sa gloire et de la dissipation de l'obscurité. Pour le cœur pieux, ça serait supposé être nous autres, voir la gloire de Dieu a toujours été un désir central. Par exemple, Moïse, qui supplie Dieu dans Exode 33, verset 18, et Moïse dit, « Je te prie, fais-moi voir ta gloire. » David partage aussi ce noble idéal, psaume 27, verset 4. « J'ai demandé une seule chose à l'Éternel, et je la rechercherai. C'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour visiter son palais. » Contempler la beauté, c'est que, vu que tous les attributs du Seigneur Jésus-Christ, vu qu'il est Dieu, sont infinis, notre contemplation est loin, elle ne finira jamais. Elle va découvrir une facette, une autre facette, et chaque facette va nous, quand on parlait tout à l'heure de croissance, on va le voir plus tard, là, c'est ça que ça va nous emmener. Tu sais, qu'on parle des fois, ceux qui prennent la dope, ils appellent ça des highs, tu sais, ils vont toquer un peu, ils vont avoir un high. Mais là, les highs qu'on va avoir dans le ciel, ils vont être constants, sans arrêt, incessants et croissants. Ça, c'est quelque chose de fascinant que Dieu nous montre dans sa parole. Et Ésaïe aussi, dans 40, chapitre 40, verset 5, il dit, « Alors, la gloire de l'Éternel sera manifestée en toute chair, en même temps la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Aujourd'hui, on le sait, les Écritures nous l'apprennent, nous voyons d'une manière obscure. Ça dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12, « Maintenant, nous voyons par un miroir, obscurément, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » À la deuxième venue de Jésus-Christ, l'obscurité va être dissipée. Et la dernière prière de Jésus lors de sa première venue sera exaucée. Vous dites quoi la prière, la dernière? Je vous la rappelle. Jean 17, la prière sacerdotale, verset 24. Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi où je serai, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est vraiment la plus belle prière qu'il puisse prononcer. C'est le don le plus extraordinaire qu'il puisse offrir et l'amour le plus grand dont il puisse faire preuve. Il sait que nous avons été créés pour un destin final merveilleux qui consiste à voir la personne la plus formidable dans sa splendeur, la plus sublime. Voilà pourquoi il prie que Dieu nous montre sa gloire. Dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu, chapitre 5, verset 8, le Seigneur Jésus lui-même dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Deuxième point, on a regardé un petit peu la vision, je suis rendu 19 minutes. Nous serons totalement transformés. Le retour du Christ et sa vision dans toute sa gloire produira des impacts prodigieux tant au niveau du corps que de l'âme. Nous serons totalement transformés, nous parviendrons à sa ressemblance. Là, s'il y en a qui sont game, il pourra venir en avant et dire, moi, je ressemble à Christ, je dirais, on peut toujours la faire. On ressemble à Christ dans une certaine mesure, mais celle qu'on va connaître lors de la deuxième venue de Jésus-Christ n'a aucune commune mesure avec la manière dont on le connaît maintenant. Notre capacité à connaître Dieu, à l'aimer et à prendre plaisir en lui sera multipliée de manière phénoménale et nouvelle. Je répète, notre capacité à connaître Dieu, on a une capacité de connaître Dieu par le Saint-Esprit, par la nouvelle naissance. À l'aimer, on aime le Seigneur, on est boiteux, on pêche, on a des manquements, on a des misères, et à prendre plaisir en lui, seront multipliés de manière phénoménale et nouvelle. On n'a pas connu ça, on ne connaît pas ça actuellement sur la terre. On va connaître ça lors de la deuxième venue de Jésus. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2, ça nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Imaginez-vous, si vous avez eu une vie de péché un petit peu importante dans votre vie passée, quelqu'un leur a dit, tu ressembles à Jésus, on passera. Mais là, quand le Seigneur va revenir, il nous dit qu'on va être transformé, puis on va le voir tel qu'il est, mais on va être semblable à lui. Quand on voit un enfant qui ressemble à son père, ou une petite fille qui ressemble à sa mère, elle ressemble à sa mère. C'est pas sa mère, elle ressemble, elle a des traits, elle a des signes distinctifs. Mais là, on va ressembler à Jésus-Christ. Jésus-Christ dans sa perfection. Marcel, il va ressembler à Jésus-Christ. Wow! Il faut s'arrêter à réfléchir un petit peu à ce qu'on dit. Et cette transformation-là va être instantanée et non pas par étapes. On se rapportait, il va nous changer tranquillement, tu bout à la fois. Non! Il va changer de façon instantanée. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme parle le Seigneur l'Esprit. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Ce n'est pas un effet automatique ou mécanique, c'est Dieu qui l'accomplit. Notre conformité à Christ a été prédestinée et elle est l'objectif de cette création. Si je vous disais, nommez-moi donc quel verset qui sont la golden chain of salvation ou la règle d'or qui est dans les Écritures qui nous parle du salut. On l'appelle souvent la règle d'or parce qu'elle est saint maillon. Je vous la lis. La chaîne d'or du salut. Car ceux qui l'ont connu d'avance, premier maillon, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, troisième maillon. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, cinquième maillon. Les fameux 5 maillons d'or, pourquoi on les appelle les maillons d'or? Parce que quand vous regardez dans quel temps c'est écrit dans le temps passé. Autrement dit, le Seigneur nous dit que toutes les choses qu'il est en train de dire là, il se dit tout dans le passé, mais nous, on en profite dans le présent comme si tout ça, c'est dans le passé, mais ça a un effet dans le présent. C'est à ce moment-là que Paul fait référence, qui parle de glorification, celle du corps et celle de l'âme. Dans Matthieu, chapitre 13, verset 43, ça parle de nous, des justes. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On va resplendir comme le soleil. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Donc, la transformation sera instantanée, non pas par étapes. Le deuxième point, c'est que la transformation sera le couronnement parfait d'une vie à lutter contre le péché. Dans Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 27, ça dit « Marie, il y a plusieurs que ça s'adresse ici, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Cette glorification va s'avérer être l'achèvement soudain d'une vie passée à faire la guerre au péché. On fait-tu la guerre au péché dans nos vies, là? On est supposé, tu vois. On fait la guerre au péché, mais là, ça va être le point final de tout ça. Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 11. « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire de la louange de Dieu. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. « Que le Dieu de paix sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, il va y avoir une croissance dans notre lutte pour le péché, mais il va arriver un moment où on va connaître le moment merveilleux. Si je vous disais de quelle phrase suivante que vous trouvez que ça exprimerait plus votre être, votre personne. « Oh, combien j'ai hâte de ne plus pécher » ou « combien j'ai hâte d'être libre de la douleur physique ». Ça devrait être « Oh, comme j'ai hâte de ne plus pécher ». Il y a des journées quand on sent qu'on aime le Seigneur, qu'on lit la Bible, qu'on a des bénédictions, là. On sent qu'on est proche du Seigneur. Il y a des fois, quand on pêche en journée, qu'on fait une bêtise ou une gaffe, on se dit, je suis fatigué, ça n'a pas de bon sens comme je fais dur. Tu sais, alors, quand on dit, combien j'ai hâte de ne plus pécher, c'est dans ces journées-là, des fois, qu'on dirait, oh Seigneur, j'aimerais donc, tu sais, que ça arrête, que je pêche plus, que j'arrête de t'offenser. Allez. Ces deux bienfaits-là vont nous être donnés, et l'image de la ressemblance au Fils de Dieu, mais bien entendu, ça va être plus spirituel que physique. Nos pensées iront dans le même sens que ses pensées, nos préférences seront comme les siennes, et nous prendrons plaisir dans ce qui lui plaît. Troisième point, j'aime beaucoup le troisième point, parce que nous connaîtrons un bonheur sans fin qui ne cessera d'augmenter. Il s'agit là d'une chose inconcevable pour nous ici-bas. Tu sais, des fois, on a des plaisirs dans la vie. Ce matin, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait 60 ans, je l'ai pas vu. Ben, pas 60 ans, mais 25-30 ans. Ça me fait plaisir. Mais c'est pas un plaisir sans fin. C'est un plaisir momentané. On a tout un paquet de plaisirs momentanés comme ça qui nous arrivent dans nos vies. Mais là, ça va être un plaisir sans fin. Et qui va aller en croissant. Ça, c'est l'idée qui est la plus... Moi, quand je l'ai lu la première fois, j'ai dit, on va aller au ciel, on va être heureux. Il n'y aura pas de problème, le péché ne sera plus là, le Seigneur va essuyer toute l'âme de nos yeux, on va être en compagnie de gens sanctifiés, on va voir le Seigneur, il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer. Mais je me souviens d'avoir entendu dans une conférence, j'avais été dans une conférence aux États-Unis il y a quelques années, il y avait un pasteur qui avait amené ça comme idée, il dit, on va connaître le Seigneur, il va nous montrer un aspect de sa personne. Dans la plupart des livres de théologie, là, on peut dire que le nombre d'attributs de Dieu tourne autour de 25, à peu près. Là. Ça peut être plus ou moins, dépendamment de l'auteur. Mais 25 attributs qui sont infinis. Disons qu'il vous montre, il va nous montrer des gestes de sa bonté. On va dire, oh! Il va nous en montrer un autre. Oh! On n'arrêtera pas de faire des A. Parce qu'il va nous en envoyer plein la vue continuellement et notre être va être rassasié de ça, va être dans un état de pur délice, mais qui va durer et qui va augmenter. Ça, c'est l'idée de l'augmentation des délices qu'on va connaître au ciel avec Dieu. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Dans le psaume 16, verset 11, ça dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels. » Des délices éternels, ça veut dire que peu importe l'aspect de sa personne qu'il va te présenter, ça va amener chez toi une exaltation, un contentement, puis ça finira jamais. Tu vas toujours en connaître une plus grande, puis une plus grande, puis une plus grande. Hey, dis que, disons, il y a des saints, quand on regarde, il parlait de 1500 quelque chose, et ceux qui ont écrit ces affaires-là en 1500, qui sont devant le Seigneur, enfin 500 ans qui sont là. Pensez-vous qu'ils ont tous découvert ce qui se passe, qui est le Seigneur, ils connaissent tous les aspects de Dieu? Non! C'est l'œuvre d'une éternité. C'est pour ça qu'il dit des délices éternels à ta droite. C'est qui est à la droite de Dieu? C'est Jésus. Des délices éternels à ta droite. L'un des effets manifestes de la contemplation de la gloire de Christ sera que nous aimerons Christ avec le même amour que le Père éprouve envers son Fils. Je la répète parce qu'elle est forte, celle-là. L'un des effets manifestes de la contemplation de la gloire de Christ sera que nous aimerons Christ avec le même amour que le Père éprouve envers son Fils. N'est-ce pas là, justement, le plaisir infini que le Père a dans les perfections du Fils? Tu sais, dans Matthieu, souvent on lit les Écritures, je me connais, parce que je fais quand même quelques années. On pense des fois qu'on lit les Écritures sérieusement, puis qu'on lit les Écritures avec méditation. Je mettrai un petit bémol là-dessus. Ça prend du temps, et parfois le Seigneur nous donne des bénédictions extraordinaires en lisant sa parole, mais on lit souvent la parole superficiellement, sans méditation, et parfois sans effort de comprendre ce qui est écrit. Et aujourd'hui, on ne sait pas qu'on n'a pas les outils. On a plein d'outils, on a plein de livres, on a des dictionnaires, on a des commentaires, on est riche en... Mais est-ce qu'on s'en sert vraiment? Moi, ça fait quand même quelques années que je suis chrétien, et j'ai remarqué que, comme chrétien, j'ai été paresseux. Probablement que vous l'avez été vous aussi. Il y a des fois qu'on voit un texte, on ne comprend pas ce qu'il veut dire, « Ah, j'en reviendrai l'autre fois. » Puis la prochaine fois que tu vas le lire, « Ah, je n'ai pas encore compris, mais j'en reviendrai l'autre fois. » On ne fait pas d'effort. Quand on ne fait pas d'effort, on n'approfondit pas le sens d'un texte et on ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Quand on dit Dieu va permettre qu'on aime Christ la même chose que le Père aime son Fils Jésus, et c'est un gros contrat, là. Il dit dans Matthieu, chapitre 3, verset 17, ça dit « Voici une voix qui venait des cieux, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Autrement dit, le Père, lorsqu'il regarde son Fils, il y trouve son plaisir, un plaisir divin. Il faut que qu'est-ce qu'il trouve est assez extraordinaire pour qu'il trouve son plaisir là-dedans sans cesse, sans arrêt. Portons attention à la manière dont Jésus prie pour que nous ayons part à ce plaisir-là. Jean, chapitre 17, versets 24 et 26. Verset 24, il dit, « Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Et le verset 26, et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as donné soit en eux et moi en eux. Quand il dit, afin qu'ils voient ma gloire, c'est la gloire de Dieu, c'est sa gloire. La gloire qu'il avait avant qu'il vienne sur la terre. Christ était glorieux, il était Dieu. Il est encore Dieu. Il a toujours été Dieu, il sera toujours Dieu. Mais là, lui, le Seigneur, lorsqu'il fait sa prière, il dit, je veux que ceux que tu m'as donnés soient là où je suis. Et ils soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Alors, le ciel, c'est de voir la gloire de Christ, qui est la gloire divine, dans chacun de ses attributs, et chacun de ses attributs est infini. Dieu va nous montrer tous les gestes de miséricorde qu'il y a eu envers tous les pécheurs de la terre, depuis le début. Puis, un geste de miséricorde, il va nous en emmener un autre, on va être encore étonnés. Puis, il va nous en emmener un autre, on va être encore étonnés. C'est extraordinaire. Il veut qu'on voit sa gloire. On va voir chacun de ses attributs. Et comme chacun sont infinis, on n'aura jamais fini. Quand le monde, des fois, ils se font des images du ciel, on va être assis dans le ciel, on va jouer de la harpe. Des fois, tu dis, ben là, la harpe, ça va faire, là, on peut-tu prendre de la guitare, on peut-tu... Ben là, tu dis, le ciel, c'est sûrement pas ça. Le ciel, c'est de voir Dieu, le découvrir, et aussi être en compagnie des anges et de tous les êtres sauvés de tous les temps. On va connaître des gens, ça va être extraordinaire. On n'aura pas une seconde pour s'ennuyer. Des fois, je discute avec ma femme, elle dit, je sais pas quand on va arriver au bord, si on va avoir des soucis. Ah, ben ma tante une telle, mon oncle un tel, mon voisin, ma voisine d'en bas, mon fils, ma fille. On va-tu penser à ça? C'est fini. La page est tournée, tout ce qui est terrestre, ça vous rentrera même plus une seconde dans le cerveau. C'est Dieu. Je pense à quelqu'un que j'ai connu dans le temps, j'étais à Nantes, j'ai quand même eu plusieurs personnes qui sont décédées. Puis, des personnes que j'étais assez proche d'eux, quand ils sont décédés, je disais à Lucie, elle ne sait pas, mais elle a sorti vite du monde, puis elle connaît un bonheur extraordinaire. Quelle chance. De quelle façon le Père aime-t-il le Fils? Le Père n'aime pas de la même façon qu'il nous aime parce que nous sommes pécheurs. Romains 5:8 dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce n'est pas ainsi que le Père aime son Fils. Ce dernier, Jésus-Christ, est infiniment magnifique, parfaitement adorable, immensément digne. Il l'aime dans sa grandeur incommensurable. Quand le Père regarde le Fils, l'amour qu'il y a entre les trois personnes de la Trinité, c'est incommensurable. Tu ne peux pas mesurer ça. C'est insondable. Tu ne videras jamais de sujet. C'est ça qui me fascine du ciel. Quand on va traverser, on va avoir des découvertes continuelles, continues et croissantes. Moi, l'idée de la croissance, je trouve ça extraordinaire, parce que on n'aura jamais fini d'avoir des choses qui nous plaisent. Isaïe 42, verset 1. « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Dieu prend plaisir en l'âme de son Fils. Il dit, j'ai mis sur lui mon esprit, il manifestera la justice aux nations. » L'amour de Dieu envers son Fils, c'est le plaisir qu'il ressent devant ses perfections infinies, devant sa beauté, devant sa valeur et devant sa grandeur. Alors cette prière qui vient tout de suite après celle où il a demandé que nous voyions sa gloire dans le verset 24, signifie certainement que nous contemplions sa gloire, sa splendeur et que nous en soyons transformés de façon entière, mais aussi que nous aimions sa gloire, que nous éprouvions de la joie et que nous y prenions plaisir comme Dieu le fait devant la beauté de son Fils. Aimer comme le Père, c'est être comme Christ. Notre joie ne sera pas limitée à notre propre capacité. Autrement dit, on a chacun nos capacités. Le théologien qui a passé 25 ans à étudier, puis qu'il est savant, puis la personne qui n'a aucune instruction, qui décède, va connaître les mêmes choses que le grand théologien. Alors on va, c'est le Seigneur qui va changer nos capacités à l'aimer, comme le Père aime le Fils. Juste ça, là, on pourrait passer un an de prédication juste là-dessus. C'est extraordinaire. Alors, aimer comme le Père, c'est être comme Christ. Alors, ça va être une joie qui va être sans cesse croissante à cause des richesses incommensurables de la grâce. Il faut ajouter une dernière clarification, de peur que quelqu'un ne se laisse convaincre d'une idée farfelue, selon laquelle, avec le temps, cette joie pourrait devenir routinière et ennuyeuse. Comme je vous parlais tout à l'heure, on s'assit tout un petit bain, on a le tard, puis même si au bout de 24 heures, je commence à être écœuré. Mais ça ne sera pas ça. Ça ne sera pas ça d'aucune façon. Allons examiner un petit passage qui va nous le dire. Éphésiens chapitre 2, versets 6 et 7. Il nous a, ici, là, si vous étudiez Éphésiens, remarquez les temps des verbes. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Quand Christ est ressuscité, là, il dit, il nous a ressuscités ensemble. C'est qui ça? Nous. C'est nous, c'est les croyants. Quand Christ est ressuscité, on était en lui. Et il nous a fait asseoir ensemble. Ça veut dire que quand Christ est au ciel, qui est assis, nous, on est assis en lui. Et ça dit dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, là, c'est du temps, ça. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce. Si je vous disais ce matin, venez tous à la vie, venez me parler de la grâce de Dieu dans vos vies depuis que vous êtes chrétien. Et même avant, vous pourriez m'en dire un mot, mais je ne pense pas que vous passeriez 48 heures. On en dit un bout, et là, on s'épuise, on sait plus quoi dire. Mais là, ça dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Ça veut dire, quand le Seigneur va nous montrer des choses par rapport à la grâce qu'il nous a accordée, la grâce initiale du salut, de nous avoir choisi cette éternité, la grâce, quand le Seigneur, dans le temps, est venu par le Saint-Esprit nous convaincre de péché, nous ouvrir l'intelligence par le Saint-Esprit pour qu'on comprenne, qu'on voit la glorieuse personne de Christ. Et au cours de votre vie, des grâces, comment vous en avez reçu, moi j'en ai reçu probablement des millions, puis je suis à peu près certain que vous autres aussi. Le problème, c'est que pas parce qu'on les a pas eu, le problème, c'est qu'on les voit pas. Mais là, il va faire en sorte qu'on les voit toutes, les grâces qu'il nous a accordées, de peu importe la nature de la grâce qu'il nous a accordée. Alors, on va passer l'éternité à saisir de mieux en mieux et de plus en plus la richesse de la grâce. Il est essentiel d'avoir une vie éternelle pour jouir de l'infinie richesse de sa grâce. Imaginez, tu sais, des fois, on parle de 1000 ans. Des fois, vous chantez des chants, puis ça dit après 1000 ans, après 1000 ans. On va en venir un autre 1000, puis tu vas être aussi content, même plus. C'est que, si on est, nous, sur la terre, peu importe ce qu'on connaît, on a un journeux, on est content. Ça ne dure pas longtemps, ça ne fait pas 15 minutes, des fois, qu'il est vendu dans la cour, hein. Tu veux devenir raffiné, tu veux devenir la saleté. Mais là, c'est pas ça, là, c'est, tu vas découvrir la grâce de Dieu dans toutes ses facettes, dans toutes ses dimensions, dans toute sa richesse, dans toute sa diversité. Et ça va être l'objet d'une adoration, d'une louange à Dieu sans cesse. Notre joie en Dieu croîtra sans arrêt parce qu'il faudra une éternité pour en épuiser les découvertes infinies. On va passer le reste très rapidement. Parce que là, l'univers, quatrième point, l'univers sera affranchi de sa servitude. Autrement dit, on sait tous que si on va dans le bois actuellement, ou si on va sur le bord d'une rivière, le bord du fleuve Saint-Laurent, on voit que l'homme a fait son travail, hein? Des bouteilles qui traînent, des saloperies qui traînent partout. L'homme a souillé la beauté de la création de Dieu. Mais Dieu dit que lorsqu'il va revenir, il va rétablir l'ordre des choses. Imaginez-vous un ruisseau. Moi, quand j'étais jeune à Mégantic, des ruisseaux, on en voyait C'était clair, à ce temps-là, on voyait les poissons à cette heure, pas sûr. Mais Dieu va rétablir les choses, mais mieux qu'avant. Mieux qu'avant la chute. Ça, c'est extraordinaire. Psaume 19, verset 2, ça dit, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » C'est une valeur que je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans matin. J'avais déjà rentré là-dedans quand j'avais prêché sur Genèse. La quantité d'étoiles dans le ciel. Une galaxie, 200 millions. Puis il y a des millions de galaxies. Vous ferez le calcul. On avait un petit groupe le samedi matin. Puis, bon, une galaxie, 200 millions d'étoiles. Puis il y a plusieurs centaines de millions de galaxies. Faites une multiplication, essayez de mettre les zéros nécessaires. Pour... C'est extraordinaire. Et Dieu va tout refaire, sa création complète, y compris l'infiniment grand. Il va tout refaire. Toutes les souillures de l'homme qui ont introduit vont être effacées. Alors, ça s'applique à la totalité du monde matériel, de la particule subatomique jusqu'à la galaxie la plus éloignée. En ressuscitant les corps humains et en remettant l'univers à neuf pour qu'ils y habitent, cette quatrième œuvre de la providence de Dieu remplit l'objectif final de toute chose, c'est-à-dire la glorification complète des siens et la pleine manifestation de sa grandeur, de sa beauté et de sa valeur. Quand on va mourir, là, moi je suis peut-être bien plus proche que je pense, là, tu te dis... Ton corps, il a pris du vieux, hein? Il a perdu tes cheveux, puis je ne raconterai pas tous mes problèmes médicaux, mais vous autres aussi, vous en avez. Quand on est ressuscité, toutes ces affaires-là, ça disparaît complètement. Plus de maladie, on meurt infirme, on meurt avec une patte croche, une patte coupée. Puis quand on ressuscite, on n'a plus ces affaires-là. C'est fini, ça. Dieu nous redonne un corps glorifié. Alors, le corps naturel, lorsque le Seigneur va revenir, il va permettre qu'on ait un autre corps. Lors du retour du Seigneur, ça dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel » et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire que j'en connais du monde qui sont décédés, des chrétiens. Moi, je me suis fait un petit livre chez nous, puis tous les chrétiens que j'ai connus qui meurent, je marque le nombre, je pense que je suis rendu une cinquantaine. Déjà, je suis rendu une cinquantaine de personnes que je connais qui sont rendues avec le Seigneur. Il dit que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Paul décrit ses corps ressuscités en 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 42-44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Mais qu'est-ce qu'un corps spirituel? Nous devons veiller à ne pas imaginer quelque chose de vaporeux ou de fantomatique. Paul a dit que Christ fera en sorte que notre nouveau corps sera comme le sien. Philippiens, chapitre 3, verset 20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il va nous rendre notre corps semblable à celui de Jésus. Oh. Parce que des fois, il y en a qui meurent maganés. J'en ai vu des fois que c'est magané pas mal. Alors, Christ, le corps de Christ, n'était pas un fantôme. Il est apparu à ses disciples, il leur a dit dans Luc 24, 39, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, et voyez un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Donc, le morceau de poisson qu'il a mangé, c'était pour dissiper les doutes des disciples. Un corps spirituel n'est pas un esprit. C'est pas un esprit qu'on va être sur le bord. Un corps spirituel, comme celui de Jésus. Ça va être un corps qui va être recréé en une forme qui dépasse notre compréhension et nos expériences. Au minimum, il est spirituel dans le sens qu'il contient dorénavant, il convient dorénavant pour que l'Esprit de Dieu y habite pleinement et non partiellement. Actuellement, si je vous disais, si vous êtes chrétien, l'Esprit de Dieu vous habite, mais partiellement. Là, on va être construit avec le nouveau corps, qu'on va être capable de recevoir la totalité et de l'Esprit Saint. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça va être aussi un univers qui va être renouvelé pour la nouvelle humanité. Il dit dans Ésaïe 65, verset 17, que je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Quand Paul parle dans 2 Pierre de la purification de la terre, il dit, « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les yeux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Elle va-t-il être belle, la création de Dieu, quand le Seigneur va avoir fait le ménage là-dedans, puis il va tout ça avoir rétabli encore mieux que c'était avant? On va triper, comme on dit. Ça dit aussi, c'est une promesse dans Romains 8, versets 19 à 21. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non pas de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. J'ai oublié d'en sauter des bouts. On va faire le cinquième point. Alors, si jamais il y en a qui sont intéressés à avoir mes notes, vous me le direz, je vous enverrai ça par email. Vous allez avoir tous les versets. C'est intéressant de retourner puis de prendre le temps de réfléchir à ce qui est dit. Parce que c'est tellement extraordinaire. Moi, ça m'a étourdi. Les cinq affaires-là vont arriver. Et t'as-tu hâte? Reviens, Seigneur Jésus! On a-tu hâte qu'il arrive? Le cinquième point, c'est que Dieu sera au centre et au-dessus de tous. Dieu sera suprême en beauté, en valeur et en noblesse. Il sera le point focal de tous et sera entièrement satisfaisant. Les buts ultimes sans fin de la Providence sont la suprématie de Dieu et le plein contentement des saints en lui. La suprématie, ça veut dire qu'il est là en toute chose, il est par-dessus toute chose, il est premier en toute chose. L'immense joie en Dieu qu'éprouvent les saints est l'apogée de notre glorification de Dieu. Ce serait une erreur grave de penser que l'accent marqué que la Bible met sur la joie des rachetés en ferait un élément plus important que la gloire de Dieu. On parle du ciel, souvent, c'est plutôt centré sur nous. Hein? Ah, Dieu dit qu'il a tout fait, pas pour nous, il fait pour sa gloire, à lui. Alors, Matthieu, chapitre 15, versets 7 et 8, ça dit « Hypocrite ». Ésaïe a bien prophétisé de vous, disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi ». Paul a écrit que sa passion suprême, ici-bas, était que son corps serve à glorifier Christ. Philippiens, chapitre 1, verset 21 à 23. Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, un gain. Mais si je dois vivre dans la chair, il en vaut bien la peine. Et ce que je dois choisir, je n'en sais rien. Mais je suis pressé des deux côtés, ayant le désir de déloger et d'être avec Christ, car cela est beaucoup le meilleur. Bien entendu, des fois je pense à ça, je m'en dis, je sors des 16 ans, je me dis, Seigneur, là, si je n'ai plus d'utilité, là, enlève-moi là-dedans,
Enfin, moi, grimper en haut.
Mais je dis toujours aussi, mais si tu penses que je peux être encore de quelque utilité, je suis prêt à rester sur la terre. Si c'est 5 ans, ce sera 5 ans. Si c'est 10 ans, ce sera 10 ans. C'est toi qui choisis. Si tu veux m'enlever, je suis prêt. Si tu veux que je reste là, je suis encore prêt à servir si je peux être de quelconque utilité pour ton peuple. Oh, je vais trouver un peu. Non, je vais juste faire les applications, ça va être rapidement. Les applications, c'est qu'après avoir entendu des choses pareilles, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit transformé dans notre façon de voir Christ, dans notre façon de comprendre qu'est-ce qui va se réaliser lors de la deuxième venue de Jésus. Moi, j'ai trouvé comme 5 mots qui résument exactement ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Et les 5 mots, si vous retenez les 5 mots, vous retenez le sermon. Premier, vision. Voir Dieu. Deuxièmement, transformation. On va être transformé. Le troisième, le bonheur complet et incessant et croissant. Le quatrième mot, l'affranchissement, c'est la création qui va être affranchie de tout ce que les hommes ont tué. Il va enlever toutes ces choses-là. Il va rendre la création plus belle qu'avant la chute. Et le dernier, c'est la théocentricité. Autrement dit, toute notre vie rendue au ciel va n'avoir qu'une seule chose, un seul intérêt. Dieu, Dieu, Dieu est toujours Dieu. Ça n'arrêtera jamais. Alors, implorons le Seigneur de nous donner de bien comprendre et de bien méditer ces notions pour que nous soyons encouragés tout au long de notre voyage dans cette vallée de larmes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la vallée de larmes, moi ça me dit beaucoup quelque chose. On vit dans une vallée de larmes. On est souvent malheureux, les gens nous blessent, on se blesse nous-mêmes, les péchés, nos péchés, les péchés des autres, on est dans une vallée de larmes. Alors, c'est vraiment une occasion pour nous souvenir des 5 points. Nous verrons le Seigneur dans toute sa gloire, lorsqu'il va revenir. Deuxième point, nous serons totalement transformés. Troisième point, nous connaîtrons un bonheur sans fin qui ne cessera d'augmenter. Et quatrième point, l'univers sera affranchi de sa servitude. Et dernier point, Dieu sera au centre et au-dessus de tous. Unissons nos cœurs dans l'adoration, la louange et la reconnaissance. Que notre grand et glorieux Seigneur soit béni et exalté éternellement. Amen.